9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
C'est l'anniversaire du docteur Alouche aujourd'hui. Enfin, ça fait un an qu'il est sur Beurre FM. Docteur Réginald Alouche, comment ça va?
Écoutez, ça va, Philippe, quand je suis là, ça va.
Bon, vous êtes toujours médecin, nutritionniste, ingénieur biomédical, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète.
La prévention, oui.
Voilà, votre livre est un best-seller maintenant, ça s'appelle La méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel.
Merci.
Il est arrivé ici il y a un an et 3 millions de vues sur YouTube plus tard avec tous les fans que vous avez, docteur Alouche. Vous êtes une révélation.
Je pense que je ne suis pas une révélation. Je pense que. Parce que c'est marrant, j'allais faire un lapsus. C'est qu'en fait, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est la prévention. Entre soigner une maladie et faire la prévention, il y a un facteur 40. Soigner une maladie, ça coûte 40 fois plus cher que prévenir une maladie. Et s'il y a une chose que je veux que les gens entendent, c'est que il est beaucoup, beaucoup plus facile, lorsqu'on a le temps, de mettre en place la prévention pour éviter des maladies qui, malheureusement, lorsqu'elles sont chroniques, sont extrêmement invalidantes. C'est tout. Je pense que c'est dommage. Il y a très peu de choses qui sont remboursées pour la prévention. Notre corps médical est déjà surchargé, vous le voyez bien actuellement. Donc on va pas lui demander en plus de faire de la prévention, parce que moi qui fais ces consultations, je peux vous dire qu'une consultation de prévention, c'est pas 20 minutes. C'est 3/4 d'heure au minimum. Parce qu'il faut expliquer aux gens, parce que dans la prévention, il y a toujours le mode de vie. Au fond, 80% des maladies que vous avez aujourd'hui sont des maladies qui sont liées au mode de vie. Trop de sel, trop de sucre, trop d'alcool, trop de tabac, trop de pesticides, l'environnement difficile, le bruit. Ce qui fait qu'au fond, notre corps, qui est un corps extrêmement adapté à la vie, et à la vie sociale aussi, est en train aujourd'hui de commencer à souffrir de cet environnement.
Et ça tombe bien, puisque la maladie dont on va parler aujourd'hui se soigne en changeant de mode de vie également. On va parler de la NASH. Dans votre pratique, il y a 30 ans, est-ce que vous voyiez à l'époque des gens qui souffraient de NASH, ou c'est vraiment une maladie générationnelle, comme on le dit?
Je vais être très honnête. Il y a 30 ans, la NASH, je ne savais même pas ce que ça voulait dire.
Mais est-ce que parce qu'on ne savait pas ce que c'était, on ne les voyait pas, ou ça n'existait pas?
C'est qu'on voyait... moi, j'ai eu la chance de faire des stages dans un service extraordinaire qui est le service de l'hôpital Beaujon, qui a été en fait l'école de l'hépatologie, et avec des gens remarquables, créés par le professeur Fauvert, ensuite le professeur Benamou. Aujourd'hui, il y a des gens remarquables à l'hôpital Beaujon à Clichy sur l'hépatologie. Et en fait, là-bas, on voyait les gens lorsqu'ils avaient une vraie stéatose. Un stéate, c'est gras, ose, c'est envahissement. Donc on voyait des gens qui avaient un foie envahi par le gras, mais à des stades qui ne sont pas le stade qu'on pourrait voir aujourd'hui en ville, parce qu'il y a des stades dans la NASH. Il ne faut pas affoler les gens. La NASH, c'est une nouvelle maladie qui touche à peu près, je crois, 7 millions ou 10 millions de Français, mais c'est des stades vraiment early stage, comme on dit en anglais, c'est-à-dire très, très tôt. Donc il ne faut pas affoler, parce que... mais elle existe. C'est-à-dire que... et moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Et je peux peut-être vous la confier entre nous, c'est que je pense qu'on a fait la guerre au gras pendant 30 ans.
Hein? Alors, c'était l'ennemi.
C'était l'ennemi absolu, ouais. Donc on a fait low fat, low machin, low truc, pas de gras, pas de truc, machin. Et en fait, on a augmenté la quantité de sucre dans les aliments, et particulièrement les aliments de l'industrie agroalimentaire. Et on a toujours eu la main lourde sur le sucre, parce que le sucre, c'est un symbole, c'est le symbole de l'après-guerre. Tous les peuples qui vivent une guerre, ils manquent de quoi ? Ils manquent de farine, de sucre, de lait. Et donc, dès que la guerre finit, eh ben, c'est comme si on voulait se dire, ah ben ça y est, c'est l'après-guerre, c'est le bonheur qui revient, et on sucre. D'accord ? Et puis vous savez très bien qu'en France, dans les pays latins, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, le sucre a une valeur de vraiment... C'est d'abord parce qu'il faut savoir que le sucre a fait la fortune. Par exemple, le Maroc, vous connaissez Essaouira. Essaouira s'appelait avant Mogador. C'était le port d'où partait le sucre pour la reine Victoria. D'ailleurs, Mogador a été britannique jusqu'à très très tard, parce que en fait, il faut savoir qu'à l'époque, le sucre, la reine Victoria par exemple, n'avait quasiment plus de dents. Elle avait tellement de caries, parce qu'elle mettait tellement de sucre dans son thé, bien plus que nos amis marocains, qu'elle a perdu toutes ses dents par caries. Donc le sucre, c'est un symbole de richesse.
Elle a vécu très longtemps, la reine Victoria, pour son époque.
Pour son époque, elle a été...
Mais alors, il venait d'où, ce sucre?
Ah bah écoutez, le sucre, il vient des caravanes qui emmenait le sucre qui était fabriqué par les cannes à sucre. hein, parce que la betterave à sucre, c'est venu
c'est
très,
arrivé
très
après,
tard.
C'est Napoléon,
bien
ça.
Plus tard. Napoléon, ouais. Après le blocus, vous savez, le blocus anglais sur les Antilles, puisqu'il y avait la canne à sucre qui venait des Caraïbes. Et donc, ce sucre venait par caravane, donc traverser les trucs, pour aller traverser le désert, pour aller à Mogador, ensuite à l'autre. Et ce sucre, c'est le saccharose. C'est un produit qui vient de la canne à sucre et qui est fabriqué à partir, enfin qui est le saccharose, c'est deux petits sucres, le glucose et le fructose. Malheureusement, le fructose et le saccharose ne sont pas très très bons pour le foie.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que on parle de foie gras et vous nous répondez sucre.
Oui.
Donc finalement, est-ce que la maladie du foie gras, la NASH, oui, c'est une maladie du foie trop sucré?
Alors Philippe, maintenant nos auditeurs commencent à avoir un certain niveau scientifique. Alors je vais leur expliquer quelque chose qu'il faut comprendre. L'organe qui régule le sucre dans le sang, c'est le foie. Ça n'est pas le pancréas. Le pancréas fait l'insuline, une hormone qui permet d'utiliser le sucre par les cellules. Mais celui qui régule la glycémie, c'est-à-dire qui fait que vous avez une bonne glycémie à jeun, c'est le foie. Et le foie, pour stocker le sucre, ben il a plusieurs façons de le faire. La première, il peut le stocker chez lui, sous forme de glycogène. Et il en fait 20 minutes pour le cerveau. Au cas où il y a un problème, le cerveau a toujours ses 20 minutes. Hein. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit du sucre, eh ben il le fait dans une forme qui lui permet un stockage quasi infini. C'est-à-dire qu'il le fait sous forme de trois glycérides. Glucose, glycérides, et il met un peu de glycérol en bas. Et ce truc à trois branches, il le met où? Il le met dans les adipocytes, c'est-à-dire ces cellules spécialisées, ce que vous avez autour du ventre, sur le visage, dans les bras, et il va le mettre comme ça, jusqu'au moment où il n'a plus de place. Et quand il n'a plus de place, à ce moment-là, eh bien, il le stocke où? Il le stocke dans son propre parenchyme, dans sa propre muqueuse.
D'accord, dans le foie donc.
Dans le foie.
Donc c'est comme ça que le foie devient gras.
Exactement. Petit à petit, gentiment. Il faut du temps hein, pour que le foie devienne gras. C'est une accumulation. Alors il y a des facteurs qui favorisent ça. Dernièrement, il y a eu des études qui ont montré que le tabac aussi était un élément de stéatose. Hein. L'alcool est un élément de stéatose. Et aussi les pesticides. Il y a des études qui ont montré que la consommation de produits très pollués par les pesticides pouvait donner de la NASH. Donc vous voyez que la NASH, au fond, c'est la conséquence de beaucoup de choses. Et le problème, le grand problème du foie, c'est que les Chinois l'appellent le général. Hein, c'est vraiment, c'est pas le cœur. Hein, le cœur, c'est une sorte.
Quand vous dites en médecine chinoise.
En médecine chinoise, oui, on appelle ça le général. C'est le plus gros organe de votre organisme. Après la peau, hein, qui est un organe, et il fait à peu près 500 transformations biochimiques. 500. C'est énorme. C'est énorme. C'est une usine. On a en soi une superbe usine de transformation, bien plus puissante que n'importe quelle usine réelle, vivante. Mais il a un problème. Et un avantage, c'est qu'il n'a pas de terminaison nerveuse à l'intérieur. Donc il ne fait jamais mal. Donc quand il souffre, on ne le sait jamais. La seule chose, c'est quand il commence à grossir, comme il est entouré par une membrane, ce qu'on appelle une aponévrose, quand cette membrane commence, quand le foie commence à augmenter, ce qui n'est pas très bon signe, hein, l'hépatomégalie, ça s'appelle. Hépato, c'est le foie, mégalie, c'est qui augmente. Eh bien, à ce moment-là, la membrane commence à s'étirer, et là, elle fait mal. Mais le foie ne fait jamais, jamais, jamais mal. Il peut faire mal indirectement en donnant des migraines, parce qu'il y a souvent des migraines hépatiques. Vous savez, quand on a mangé un repas très gras. Là, je ne parle pas de stockage, je parle de traitement, où il faut beaucoup de... Parce que le foie fait la bile, ce qui permet de digérer. On n'a pas assez de bile pour digérer. À ce moment-là, on a mal au crâne après un gros repas parce qu'on n'arrive pas à absorber toute cette graisse. Voilà.
Donc, c'est une maladie silencieuse.
Oui.
Qui ne fait pas mal. NASH, c'est l'acronyme de quoi? Ça veut dire quoi,
oui,
en fait?
Parce que on parle de NASH, mais on sait
ouais, non, mais c'est, fait. Et c'est vrai que bon, on l'a vu avec Pierre Ménès.
Oui.
On a commencé à vraiment en parler en France quand on a mis un visage dessus.
Oui.
On a su que c'était la maladie de Ménès.
Mais... Oui, il y a plein de présentateurs. Vous savez, en football aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont. La NASH, ça veut dire non-alcoolique.
Oui.
Stéatose hépatique.
D'accord. Donc c'est
la stéatose hépatique, c'est-à-dire le farcissement du foie, le foie gras, hépatique. Donc stéatose, gras, hépatique, foie, non alcoolique. Parce que, bien entendu, il y a aussi les gens qui consomment un peu trop d'alcool, qui ont très très vite des NASH, qui évoluent, on le sait, vers la cirrhose.
Mais qui est donc alcoolique à ce moment-là.
Qui est alcoolique, donc c'est pas la NASH.
C'est pas la nage.
C'est
voilà.
La cirrhose alcoolique.
D'accord.
Mais aujourd'hui, le plus grand nombre de cirrhoses sont des cirrhoses stéatosiques. C'est-à-dire qui sont à le dernier stade de la stéatose. C'est la cirrhose. Il faut expliquer un peu tout
les
ça.
Les différents stades, comment ça évolue en fait?
Il y a beaucoup de stades. Vous avez en gros quatre stades. Le premier, c'est stéatose zéro. D'ailleurs, ça se mesure aujourd'hui. Vous avez des appareils et vous avez aussi des prises de sang.
Un matériel français, le fibroscan.
Ah oui, qui est remarquable. Le fibroscan, il y en a très peu. Malheureusement, l'examen n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale, la prévention.
Vous en avez un, vous?
Moi, j'en ai un. Oui, j'en ai un. J'ai eu la chance d'être équipé. C'est d'ailleurs parce qu'il y a des centres, il y a trois centres privés à Paris qui ont des fibroscans. Et moi, franchement, honnêtement, je le dis sans aucune publicité, je ne sais pas comment faire, je ne peux plus m'en passer. Parce que, comment ça se passe? Vous venez me voir et vous
si
me
dites, vous arrivez à avoir un rendez-vous, donc ça, c'est faut
non, 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 attendez. La médecine de qualité, ça prend du temps.
Ouais. Hein, je suis désolé. On vient vous voir si on a
voilà,
un rendez-vous.
Voilà. Et vous me dites, vous venez, vous avez pris un peu de poids, vous vous sentez pas très bien, vous avez du mal à digérer, parfois l'après-midi vous êtes ballonné, comme ça, et vous dites, bon, docteur, on parle de truc, on voit là, peut-être une glycémie un peu pré-diabète, hein, une glycémie au-dessus de 1,05, mais inférieure à 1,26, qui est le diabète. Donc, et je vous demande, la première chose que je vais faire, c'est vous examiner, bien sûr, parler avec vous, connaître votre mode de vie, avoir des éléments, et je vais vous demander une échographie abdominale. Cette échographie abdominale, la réponse de l'échographiste va me dire foie de stéatose, pas foie de stéatose. Voilà. C'est tout ce qu'il peut dire avec une échographie.
Il ne peut pas mesurer, en fait.
Alors, il y a certains échographistes qui sont équipés pour faire ce qu'on appelle l'élastométrie, ce que fait le fibroscan. Mais c'est en fait un algorithme. Il calcule ça par rapport à l'image. Ce n'est pas vraiment une élastométrie, mais c'est une bonne indication. Donc, vous revenez, on voit stéatose. Et là, qu'est-ce qu'on fait? La seule façon de le savoir, de continuer, j'ai d'abord demandé une prise de sang. Mmh. Et sur la prise de sang, il y a des éléments très importants. Le nombre de plaquettes, les transaminases, c'est-à-dire les enzymes hépatiques, qui normalement sont, en fonction des laboratoires, ça doit être inférieur à 40 ou à 55. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a un enzyme qui est particulier du foie qui s'appelle l'alate. Et cet alate, si on voit qu'il est supérieur à 20-25, même s'il est dans les gammes autorisées, c'est-à-dire inférieur à 55, c'est une petite indication. Alors pourquoi? Je m'arrête deux minutes pour ça, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez le foie qui commence à être un peu farci, il y a certaines cellules qui vont un peu exploser. Quand elles explosent, elles libèrent ce qu'il y a dans leur cytoplasme, dans leur contenu, les membranes ont explosé. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a justement ces enzymes. Donc, quand les enzymes augmentent, ça veut dire qu'il y a une petite destruction infinitésimale du foie. Donc, c'est une indication pour le médecin. Et moi, quand je vois des gens comme ça, au-dessus de 25-30, à ce moment-là, quand on a un fibroscan, on a la chance d'avoir un fibroscan, on fait un fibroscan. Et qu'est-ce que veut dire le fibroscan? Il dit deux choses fondamentales. Le premier, le niveau de la stéatose. On est à S0, S1, S2, S3. Après, j'expliquerai S1, S2, S3, parce que je pense que c'est important. Et surtout, il vous dit fibrose. Alors, la fibrose, c'est très important. Qu'est-ce que c'est la fibrose? C'est que votre cellule hépatique, quand elle est farcie, à un moment, elle est trop farcie, elle commence à souffrir, à s'asphyxier. Et quand une cellule, quelle qu'elle soit, s'asphyxie, elle commence à faire de la fibrose, de la fibrine autour, pour se protéger en disant, j'en ai marre, arrêtez. D'ailleurs, je vous ferai plus 500 transformations, j'en fais que 250. Là, c'est le début des ennuis. Et donc, la fibrose, parce qu'autant la stéatose, elle est réversible. Si vous avez un bon médecin, il va vous donner les conseils pour la rendre réversible. Et comme le foie est un des organes les plus merveilleux, c'est le seul qui, lorsqu'il est en bonne santé, peut se régénérer. Donc, il peut recréer des cellules.
La stéatose est réversible. Par contre, la fibrose...
La fibrose, c'est plus compliqué. Et là, il y a les niveaux de fibrose, F1, F2, F3. Si on est en F1, on peut encore éviter les ennuis. Si on est en F3, eh ben, à ce moment-là, il faut vraiment suivre un régime alimentaire strict. Il faut se battre et il faut enlever les facteurs de risque. Facteurs de risque, le surpoids, l'obésité, le diabète, prédiabète. Le fait de fumer, de pas fumer et de manger trop sucré.
On parle de la nage ce matin avec le docteur Réginald Allouche qui est avec nous. Profitez de sa présence pour poser vos questions en direct tout à l'heure. Au 01 53 48 3000, c'est le standard à votre santé. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h. AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle de la NASH, hein, on en parle de plus en plus de cette maladie de consommation,
oui, qui est liée à notre mode de vie aujourd'hui moderne, oui.
On l'appelle la maladie du soda aux États-Unis.
Oui, parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a une chose très particulière. Et j'espère, et ça c'est un message, je profite de votre antenne pour le dire. Aux États-Unis, j'espère que je peux passer ce message. Ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, les sodas sont édulcorés, sont sucrés, avec pas du sucre en poudre, mais avec ce qu'on appelle du high corn syrup, c'est-à-dire du sirop de maïs. Ça, c'est lié à l'histoire. Quand il y a eu l'affaire de Cuba... C'est très drôle quand même, comment l'histoire peut influencer. Quand il y a eu l'affaire de Cuba, il y a eu le blocus de Cuba, il y avait la canne à sucre. Et la canne à sucre, c'est le saccharose. Vous vous souvenez, saccharose, une molécule de glucose, une molécule de fructose. Donc, les céréaliers du Nord, du Minnesota particulièrement, ont proposé de faire un édulcorant à base de maïs, qui est très riche en fructose, qui s'appelle le high corn syrup. Et donc, il a été fait en masse, et à ce moment-là, on a édulcoré les sodas en masse avec du high corn syrup. Le problème, c'est que le fructose n'est pas métabolisable par les cellules de votre corps. Il faut qu'il fasse un passage obligatoire par le foie. Et quand le foie voit du fructose, il arrête tout. Parce que ça lui demande du travail pour le transformer en glucose. Je vous rappelle que le glucose...
C'est comme quand il voit de l'alcool.
Exactement. Alcool et fructose, c'est pareil. Donc quand vous buvez une canette de soda aux États-Unis, vous avez un afflux très important de fructose, le foie s'arrête, il travaille, il met de côté les graisses, il met de côté le sucre et il le stocke.
Ce qui veut dire que votre sucre de maïs là,
oui,
il est considéré par le foie comme un fructose.
Ah ben non, c'est du fructose.
C'est
que du fructose pur.
D'accord.
D'accord. Et alors, aujourd'hui, et j'espère que la communauté européenne ne le fera pas, il ne faut pas autoriser les sodas en Europe à être édulcorés, sucrés avec du fructose. Il faut rester, malheureusement, je dirais, parce que l'idéal, c'est d'éviter d'en boire, sauf de manière exceptionnelle, avec du saccharose. Vous voyez le problème ? Il y a des enjeux derrière la NASH, qui ne sont pas des enjeux. On culpabilise beaucoup les gens. Ah, mais s'ils sont gros, c'est de leur faute. Tout ça, c'est des... Excusez-moi de le dire, c'est vulgaire, mais tout ça, c'est des conneries. La réalité, c'est qu'on est entouré et poussé à consommer des produits qui n'ont pas été élaborés pour notre santé durable. Alors ça veut pas dire jamais. On peut boire une canette de soda de temps en temps, c'est au contraire. Même quand on sort en boîte le soir plutôt que de boire, eh ben on se fait une canette de soda, comme ça on peut rentrer en voiture et vivre sa vie et pas se retrouver dans un hôpital. Mais la réalité, c'est que ce sont des outils et des produits exceptionnels que nous consommons tous les jours. Dans certains pays, en Amérique centrale et du Sud par exemple, vous allez dans les montagnes où il y a une eau filtrée sublime, vous pouvez boire cette eau, c'est comme du nectar, eh ben, la première chose qu'on vous propose, c'est une canette de soda. Pourquoi ? Parce que c'est dire, j'ai les moyens de me payer une canette de soda, je ne bois pas de l'eau comme les pauvres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est presque un symbole de votre appartenance à la bourgeoisie moyenne. Donc, on est dans un système, il faut bien que nos auditeurs réfléchissent à ça. Tout ce qui nous est proposé, poussé, n'est pas obligatoirement bon pour notre santé.
Alors, on va prendre Kamel, et puis on va continuer sur la NASH. Kamel au 01 53 48 3000. Kamel, bienvenue.
Bonjour à vous deux.
Bonjour Kamel.
Bonjour Kamel.
Mais en fait, je vous appelais concernant, enfin, un peu dans l'esprit de ce que vous êtes en train de raconter, donc dans cette culture de surconsommation ou de consommation d'aliments supra-riches. Je voulais avoir un peu votre position par rapport aux jeunes, qu'ils soient intermittents ou, on va dire, jeûne hydrique de 2-3 jours, donc intermittent sur quelques heures, sur 16 heures. Et parce qu'on me dit, enfin, je sais pas, c'est ce que tout le monde répète autour, c'est que ça permet de reposer, de faire reposer les organes internes, notamment le foie. Donc, je voulais un peu avoir votre position sur le sujet.
Alors, merci Kamel pour cette question, parce qu'en fait, elle m'est souvent posée. Et donc, on va essayer de trouver ensemble, tous ensemble, une doxa.
Même si vous avez fait une vidéo sur le sujet, mais c'est vrai que c'est bien de revenir dessus.
Je pense, si vous voulez, que d'abord, votre foie, il y a une chose qu'il adore, c'est la routine. La routine. Il aime bien la routine. Sachez que votre foie, il dort la nuit, hein. puisqu'il est, quand on se couche, il se met au repos, la flore bactérienne se met au repos, et le matin, il y a une petite hormone vers 5-6 heures qui va être injectée, et qui va être, c'est le cortisol, qui va réveiller tout le monde, et qui fait que le foie va faire du sucre, et qu'à ce moment-là, le pancréas fait de l'insuline, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, avec une glycémie à jeun très élevée, parce que c'est le premier signe de résistance du foie à l'insuline. Je le dis pour certaines personnes qui sont toujours inquiètes en disant « je ne comprends pas, j'ai une hémoglobine glycée qui va bien, mais j'ai toujours un peu de… » Voilà. Mais pour répondre, pour revenir à la question de Kamel, moi je dirais que si le jeûne vous va, continuez le jeûne. C'est-à-dire que y a des gens à qui ça va, qui sont bien comme ça, qui font que deux repas, hein, c'est le jeûne intermittent. Alors, il y a plusieurs jeûnes. Il y a le jeûne intermittent… et le jeûne hydrique. C'est-à-dire, il y a des gens qui font, exactement, par exemple, 2-3 jours de jeûne hydrique, ils boivent un peu de bouillon, ils boivent quelques jus, et puis voilà. Mais il faut que ce soit dans un contexte où aussi on fait marcher son métabolisme. Hein. Il ne faut pas que ce soit allongé. Il faut que ce soit un jeûne hydrique, mais un peu moteur, parce que comme ça, à ce moment-là, le foie va commencer à métaboliser les toxiques, et ainsi de suite. Donc, pourquoi pas. Le jeûne non hydrique, non. Le jeûne non hydrique, il faut éviter, parce que boire, c'est quand même très très important pour se détoxifier. Hein. Donc le jeûne hydrique, oui, pendant 2-3 jours, pas plus. Le jeûne intermittent, oui, si on peut le tenir et si on est jeune. Parce que le problème, c'est l'âge aussi. C'est-à-dire que si vous faites des périodes de jeûne après 50 ans, que vous ne faites pas beaucoup d'exercices, et là, à ce moment-là, il y a des métabolismes de défense qui vont se mettre en place, parce que, vous savez, la nature, c'est peut-être un peu choquant ce que je vais vous dire, la nature, elle s'intéresse à vous tant que vous, pour que vous fassiez des enfants. Quand vous avez fait des enfants, après, en gros, c'est votre truc. Vous voulez vivre le plus longtemps possible, si Dieu le permet, allez-y. Mais moi, la nature, au fond, vous avez fait le job, vous êtes multiplié, donc moi je vais bien. Donc ça veut dire qu'après 30-40 ans, il y a d'autres processus qui se mettent en place et qui font que si on a un jeûne intermittent, mais qui peut être vécu par l'organisme comme un stress, à ce moment-là il va se mettre en mode défense. Vous voyez, c'est une réponse, parce que pour répondre vraiment à Kamel, il faudrait faire un petit bilan, savoir où vous en êtes, est-ce que vous êtes sportif, est-ce que vous êtes en surpoids, pas surpoids, est-ce que vous êtes diabétique, parce que un diabétique qui fait un jeûne intermittent, s'il a déjà des hypoglycémies, ben il va faire des vraies hypoglycémies. Si celui-là arrive au volant, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe? Vous voyez, c'est une réponse, et c'est pour ça que je reviens à une réponse très englobante. Si ça vous va, si vous l'avez fait un deux jours et que vous vous sentez bien, faites-le, il y a pas de problème. Il n'y a pas eu de grande cohorte d'études cliniques disant si
sur le jeûne intermittent.
Ouais, ouais. Il n'y en a pas eu encore. Il y a quelques petites publications qui montrent que ça peut être intéressant. Maintenant, je vais vous dire, là où Kamel, je comprends sa question, c'est que de toute façon, on mange tous trop. Globalement. Ça fait longtemps, nous adultes, qu'on n'a plus faim quand on se met à table. D'accord? Donc, jeûne intermittent, pourquoi pas?
Kamel? Okay.
Donc oui, pour ma part, moi je le pratique de façon régulière, donc je sais que ça me va. Après, c'était surtout sur l'intérêt, parce que c'est pas un mythe, cette histoire de repos des organes internes et qui fait du bien à l'organisme, et là notamment pour le foie.
Oui, le foie va travailler, il va à ce moment-là, on va mobiliser les graisses, il va y avoir un peu de corps cétonique qui vont être créés. Il y a aussi un problème si vous vivez, c'est très réel, si vous vivez dans une zone où il y a beaucoup de polluants, vous savez que les polluants, les pesticides sont stockés dans les graisses. Hein. C'est lipophile, oui, c'est liposoluble. Donc c'est stocké dans vos adipocytes. Quand vous commencez des régimes, à ce moment-là, ils vont se retrouver libérés. Il faut laisser au foie le temps de pouvoir les éliminer. Hein, parce que c'est le foie qui s'en occupe des toxiques. Donc vous voyez, il faudrait qu'on ait deux jours Kamel de discussion. Mais merci pour votre question.
Merci Kamel.
Bonne journée.
Au revoir.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Alors c'est Candoucy qui est avec nous. Candoucy.
Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour. Alors c'est Candoucy, c'est ça votre prénom?
Exactement. Bonjour, bonjour docteur. Bonjour Monsieur Philippe. Je vous remercie docteur pour ce que vous faites pour les auditeurs à chaque fois.
Alors, Candoucy, ouais, on écoute votre question si vous en avez une pour le docteur Alouche.
Oui, j'ai une. Je suis une personne qui est âgée de 52 ans.
Oui.
J'ai un problème de tension et j'ai un problème de cholestérol mauvais. Je prends le simvastatine, 20 mg.
Oui.
Et de temps en temps, je l'oublie, mais en ce moment, ça fait presque quelques semaines, j'ai de la migraine. Chaque après-midi, j'ai une migraine. En plus de ça, je prends du paracétamol et elle ne fait rien du tout.
D'accord.
Est-ce que le cholestérol peut causer cette migraine?
Non, le cholestérol ne peut pas. Par contre, il faudrait que je sache quel est votre... Vous n'avez pas mal aux jambes? Vous n'avez pas de crampes dans les jambes?
Non. J'ai un petit peu de tension.
Oui.
Je prends l'athénolol, 20 mg.
Oui.
Chaque matin.
Oui.
Mais c'est... à part ça, cette migraine s'atténue de jour en jour.
Alors, la migraine, si vous voulez, elle peut avoir plusieurs origines. La première origine, ça peut être aussi votre hypertension. C'est-à-dire qu'il faudrait vérifier que vous n'ayez pas des poussées d'hypertension. Donc, il serait bien à ce moment-là que vous ayez un contrôle peut-être sur 24 heures. Hein. Il y a ce que l'on appelle des haltères qui permettent de vérifier que vous n'avez pas des pics de tension de temps en temps, surtout si vous êtes un peu anxieux et qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Deuxièmement, il se peut aussi que votre sécrétion de bile si par exemple vous avez des repas un peu trop gras ou un peu trop chargés, à ce moment-là, le foie est un peu dépassé par les événements et vous pouvez avoir une petite migraine parce que quand on dit, vous savez, on n'a jamais mal au foie, on a mal à la tête mais on n'a pas mal au foie. Le foie fait pas mal. Si on a mal au foie au niveau du foie, c'est-à-dire, je vous rappelle, l'hypochondre droit, c'est plutôt la vésicule biliaire qui fait mal. Hein. Donc, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est très simple, c'est que vous fassiez une vérification de votre hypertension, voir si vous n'avez pas des poussées, des petits pics d'hypertension qui vous donnent mal à la tête. En général, ces pics-là, ça donne des migraines qui sont pas localisées. Parce que vous savez, il y a des migraines qui sont à gauche, à droite. Et c'est en général des migraines où on a la tête un peu lourde. Quand on baisse la tête, on sent les pulsations cardiaques. Parfois, on a mal aux yeux quand on regarde la lumière. Il faut peut-être que vous fassiez une exploration là-dessus. Deuxièmement, il faut vérifier l'état de votre foie et voir si vous n'avez pas une augmentation de vos transaminases hépatiques, voir si votre foie n'est pas un peu surchargé, mesurer l'excrétion aussi de la vésicule biliaire avec la bilirubine. Je crois qu'il y a plusieurs choses à faire parce que si cette migraine est récente, il faut s'en occuper. Il faut pas la laisser traîner, il faut pas vivre avec. Il faut aller voir un médecin, lui en parler, faire quelques analyses, c'est pas compliqué. Et je pense que vous devriez guérir de cette migraine.
D'accord, merci beaucoup.
Voilà, très belle journée, monsieur.
Merci, Candoussi.
Merci, au revoir.
Au revoir, Candoussi.
Bien, alors, dans un instant, on va continuer à parler de la NASH et on verra quels sont les liens qui existent entre le diabète de type 2 et la NASH. Et si vous avez des questions à poser sur la NASH, eh bien, vous pourrez le faire au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, le docteur Réginald Lalouche qui est avec nous aujourd'hui. On parle de la NASH. Est-ce qu'aujourd'hui, les docteurs sont bien formés à la détection de la NASH? Et est-ce que les diabétologues ont bien intégré la NASH dans la prise en charge du diabète de type 2 ou pas encore?
Alors, écoutez, je crois que la NASH, d'abord, c'est une maladie qui fait irruption, en fait, dans la vie quotidienne. Vous savez, les médecins sont des gens pragmatiques. Ils ont été formés, ils passent 10 ans à se former. Et en fait, ils sont formés pour traiter et pour soigner. Le grand problème de la NASH, c'est qu'en fait, c'est pas une maladie. Il n'y a pas de médicament contre la NASH. Il n'y en a aucun. Donc pour un médecin, c'est que de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut qu'il la détecte. Je rappelle d'ailleurs que beaucoup d'examens concernant la prévention de la NASH ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. L'élastométrie fibroscale n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Les fibrotests qui permettent avec une prise de sang de savoir quel est le score de risque de NASH ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Donc, voilà, il y a... Alors, ça c'est un vrai problème. Ils sont remboursés par la Sécurité sociale s'il y a une comorbidité, c'est-à-dire un autre problème, par exemple le diabète. Voilà, puisqu'il y a un lien très très fort. En fait, c'est un couple à trois. Vous avez le diabète ou le prédiabète, parce que le prédiabète, je rappelle que c'est le diabète stade 0 hein, quand même, mais c'est le diabète. Hein. Vous avez le prédiabète, le diabète, le surpoids ou l'obésité, et puis la NASH. Alors, la grande question aujourd'hui scientifique, c'est, pour tous les médecins, c'est est-ce que la NASH vient et le signe précurseur du prédiabète et du diabète, ou est-ce que la NASH est une conséquence du prédiabète et du surpoids? Ça, aujourd'hui, c'est très très difficile de répondre. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. C'est que si vous pouvez avoir un dosage de vos transaminases, même si vous allez bien, mais que vous avez un peu de ventre, faites-le, ce dosage. Et si le dosage est un peu modifié, qu'il est que les alates, A-L-A-T, sont supérieures à 20-25, ça vaut le coup d'aller explorer, soit de faire une échographie qui, elle, est remboursée, l'échographie abdominale, soit de faire une élastométrie qui, elle, n'est pas remboursée, mais qui permet de donner un stade. Parce que, je le répète, l'échographie abdominale qui va voir votre foie va dire stéatose, pas stéatose, mais l'élastométrie, elle va vous dire quel stade et s'il y a fibrose. Voilà. Donc, il faut s'en occuper soi-même. Je pense que de toute façon, à terme, ces examens vont être remboursés parce que la NASH est en train d'exploser. Hein. C'est, je crois, 15 millions de Français. Donc, il y en a 200 000 qui commencent à avoir des signes de cirrhose. Donc, 200 000 cirrhoses. Je rappelle aussi que ça devient, aux États-Unis, par exemple, on suit souvent les États-Unis. Aux États-Unis, la première cause de transplantation aujourd'hui hépatique, c'est la NASH. Donc, il y a un vrai, je pense que les pouvoirs publics sont au courant et feront les choses, parce qu'après tout, la sécurité sociale, je rappelle, c'est paritaire, hein, c'est salariés et patrons qui mettent dans un pot commun pour le bien commun. Donc, je pense que la sécurité sociale a comme objectif le bien commun. Elle est parfois en décalage horaire par rapport aux pathologies, mais en ce moment, il y a de plus en plus de travaux qui sont faits pour voir et pour rembourser ces tests qui sont très importants.
Alors, vous parliez de 4 stades de fibrose.
Oui. Alors, donc, il y a F0, c'est « j'ai pas de fibrose ». Mais c'est très difficile pour en élastométrie, justement, de faire la différence entre F0 et F1. D'accord ? Mais ça, à la limite, c'est un stade qui fait que on est toujours dans la réversibilité. Hein. Après, il y a F1. Et donc, quand on est F1, à ce moment-là, il faut prendre les choses très sérieusement. Au-dessus, F2, F3, il faut vraiment être suivi par un hépatologue. C'est pas la catastrophe si on prend les mesures hygiénodiététiques qui font qu'on stoppe cette fibrose. Voilà. Alors, l'avantage de tous ces tests, que ce soit sanguin ou élastométrie, c'est que ce sont des tests qui ne sont pas invasifs. Parce que le test juge de paix pour en hépatologie, c'est ce qu'on appelle la PBH, la ponction biopsie hépatique. C'est-à-dire qu'on rentre une aiguille dans le foie et à ce moment-là, on fait un carottage et on peut avoir une vision qu'on appelle anatomopathologique, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui sur un microscope va évaluer votre fibrose. Mais on la fait rarement parce qu'elle est dangereuse. Voilà, sauf dans des centres hospitaliers comme j'en ai cité où les gens ont l'habitude de le faire, c'est safe, c'est à l'hôpital. Avec un environnement de réa éventuel.
Jusqu'à quel stade on peut revenir en arrière ?
Ah, alors ça, c'est si j'étais capable de répondre à cette question, je pense que...
Parce que c'est une question qui revient souvent.
Oui, alors, sur la stéatose, tant qu'il n'y a pas de fibrose, on peut revenir en arrière.
D'accord. Voilà. Mais si on est en F1, F2, par exemple ?
Si on est en F1, on peut revenir en arrière, ce n'est pas une catastrophe. Si on est F2, F3, il faut vraiment s'en occuper, quoi. Faut vraiment s'en occuper.
Et quand vous dites s'en occuper, ça veut dire quoi?
Alors ça veut dire arrêter les boissons sucrées, diminuer significativement les apports sucrés. Je rappelle par exemple, parce qu'on en avait parlé ici dans une émission, mais par exemple une baguette blanche de pain blanc, c'est l'équivalent de sucre. Hein. Faut pas, parce que vous savez, on a encore les sucres lents, les sucres rapides, tout ça, c'est faut oublier. Hein. Il y a encore des gens d'ailleurs qu'on parle dans les médias, mais on oublie ça.
C'est un concept qui est dépassé, qui a plus lieu d'être.
C'est dépassé parce que le vrai concept, c'est les index glycémiques, c'est-à-dire l'impact qu'a un sucre sur l'augmentation de la glycémie. Donc, premièrement, faut arrêter l'alcool pour ceux qui en boivent. Il faut arrêter.
Ça veut pas dire.
Non, mais faut arrêter. Ouais. Parce que fibrose, ça veut dire c'est danger. Hein.
C'est ça
lumière orange. Ouais. Hein. On peut aussi. On s'est aperçu, c'est très drôle, que si on boit 2 tasses de café non décaféinées, ça peut améliorer. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle pour les buveurs de café.
Ouais.
Hein. 2, ça veut pas dire 10. Hein. Parce que quand on dit 2 à la radio, les gens se disent, ah bah,
le Toubib, il a dit 2.
Il a dit 2, on peut
Il n'a pas mis les taxes.
Voilà. et qu'est-ce qu'il y avait de... Là, donc, on a... Et puis, essayer de manger bio. Parce qu'on sait qu'il y a un lien entre les pesticides et certains pesticides avec l'apparition de la NASH. Donc, vous mangez bio, vous buvez de café, vous arrêtez les sodas, vous arrêtez le sucre. Globalement, et surtout, vous faites de l'exercice et vous perdez du poids. Parce que l'exercice, c'est très très simple. Je pense que vous allez comprendre très rapidement. Le foie, il filtre à peu près le tiers du sang que le cœur filtre. Le cœur, il est dédié. Hein. Il y a le tiers qui passe par le sang. Tout le sang qui vient du tube digestif va dans le foie via une grosse veine qui s'appelle la veine porte. Quand vous faites de l'exercice, qu'est-ce qui se passe ? Vous augmentez les capacités de traitement. On peut vivre avec le tiers de notre foie. pour dire que on a été créé avec un foie suffisamment gros pour pouvoir traiter, parce que quand on était au néolithique ou bien avant, il y avait beaucoup plus de toxiques dans la nature, hein, parce qu'on mangeait des choses qui n'étaient pas obligatoirement très bonnes. Donc on avait la possibilité. Donc en fait, le foie, c'est ça. Et deuxièmement, et après je vous rends la parole, c'est que n'oubliez pas que le foie voit arriver une grande partie des graisses par le système lymphatique, qui lui n'a pas de cœur. Et le système lymphatique, c'est du liquide qui va bouger, qui va avancer si vous bougez et si vous faites de l'exercice.
Bien, on donne la parole à Nadia, docteur Alouche. Nadia, oui. Bienvenue.
Oui, bonjour docteur.
Bonjour Nadia. Oui.
Alors, je vous appelle parce qu'au fait, je me retrouve avec tout ce qu'il dit, docteur. Au fait, moi j'avais la stéatose.
Oui.
Suite à une prise de sang, ils ont trouvé des gamma GT très très élevés. C'était à 400.
Oh, beaucoup, oui. Oui.
Et donc, j'ai vu un gastro-entérologue.
Oui.
On a fait tous les examens, oui. L'échographie, le scanner. Il a trouvé que c'était... sa réponse était point d'interrogation. Il ne savait pas c'était quoi.
Oui. Est-ce que je peux vous demander combien vous aviez d'alate et azate, les transaminases?
Alors, le reste était bon.
Ah, le reste était bon. C'était d'accord. Oui. Le reste était bon, ok.
Oui, sauf les gamma GT.
Oui.
Après, un jour, je suis tombée sur un docteur. Après, j'étais suivie avec l'échographie tous les 6 mois.
Oui.
Un jour, je suis tombée sur un docteur, radiologue, et il m'a dit que c'était la stéatose.
Oui.
Vous avez ce qu'on appelle le foie gras.
Oui.
Et puis, après, qu'est-ce que j'ai fait? Dès qu'il m'a dit ça, je suis partie chez moi.
Oui.
J'ai commencé à boire du citron vert chaque matin.
Oui, oui.
Au bout de 15 jours, j'ai été revoir mon médecin généraliste. Je lui ai demandé les examens.
Oui.
On a refait les examens. Ils étaient de 400. Ils sont descendus à 100.
Oui, très bien.
Et depuis, donc je prends du citron vert. Mm-hmm. Le foie, les gamma GT sont redevenus normales, parce que j'ai perdu aussi du poids.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, j'ai un problème avec tout ce qui est gras. Je ne mange plus rien du tout.
Mm-hmm.
Dès que je mange quelque chose, l'envie de vomir, la tête qui tourne. Alors, un fromage, même un fromage, je ne peux pas le prendre. Des frites, impossible. Ça fait au moins 6 ans que je n'ai pas mangé ça.
Oui.
Donc aujourd'hui, je me retrouve à manger que des pâtes.
Oui, oui, c'est... Oui. Oui. Alors écoutez, dans votre cas, bien sûr, vous savez, c'est toujours difficile à la radio parce qu'il faudrait que je vous examine, parce que vous avez dit 2 choses importantes. Vous avez dit que vous avez perdu du poids déjà, et donc quand on perd du poids, alors ça c'est sans appel, on diminue la stéatose. Hein. La perte de poids diminue la stéatose parce que ça permet au foie de se libérer du gras. Mais dans votre histoire, il y a une chose intéressante, c'est que vous aviez des transaminases normales. Ça se voit de plus en plus aujourd'hui, des gens qui ont des stéatoses avec transaminases normales, c'est-à-dire sans indication de souffrance du foie. C'est-à-dire que le foie se remplit. Voilà. Mais dans votre cas, je me demande, parce que le citron vert, ça, c'est ce qu'on appelle un hypercholérétique, c'est-à-dire que ça permet de faire plus de bile, donc d'assurer une meilleure digestion, et surtout de libérer la bile. Peut-être que vous aviez, vous, un foie, dit ce qu'on appelle de cholestase, c'est-à-dire un foie qui était un peu rempli de bile, et parce que le citron a cette vertu de libérer la bile du foie. Et donc, c'est la fleur d'oranger aussi, qui est ce qu'on appelle hypercholérétique, hypercholagogue, c'est-à-dire elle fait plus de bile, de sels biliaires qui servent à la digestion, et cholagogue, elle le libère. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le thé blanc, je crois, le café blanc au Liban.
Oui,
on fait de l'eau chaude avec...
Vous nous l'aviez donné pour les fêtes de fin d'année.
Exactement.
Merveilleux.
Et ça,
ça
marche très très bien. Donc le citron, c'est
donc,
bien.
Un peu d'eau chaude.
Un peu d'eau chaude et de la fleur d'oranger.
Et de la fleur d'oranger.
Voilà. Et de la fleur d'oranger parce que ça va libérer, c'est ce qui permet en fait ce qu'on appelle la détox du foie. Mais en fait, ça permet vraiment de libérer son foie. Donc pour vous, je pense qu'à chaque fois que vous mangez du gras, eh bien vous savez, le gras, il a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que le gras, c'est celui qui quitte le plus tard l'estomac. Donc, les gens qui ont ce qu'on appelle une petite, je suis désolé d'aller dans le détail, mais gastroparésie, c'est-à-dire un estomac qui se vide pas très très bien, eh ben à ce moment-là, ils vont garder le gras. Le gras, vous savez, c'est ces gens qui sont un peu ballonnés après le repas, qui ont parfois des éructations, qui sentent pas très bon. C'est que tout simplement, la vidange, qu'on appelle la vidange gastrique, ne se fait pas très très bien. Après, ce gras va aller dans le foie après la digestion. Le foie va se retrouver encombré. Vous voyez, c'est donc très très important de voir l'ensemble du cas. Hein. Donc c'est bien qu'elle ait posé cette question parce que c'est vraiment le tube digestif, c'est un tout. Vous pouvez pas dire le foie, le machin, le truc. En tout cas, si vous perdez du foie, la stéatose, elle recule.
Du poids.
Je ne peux pas manger ce que je peux au jour d'aujourd'hui. J'ai des boutons partout, j'ai la tête qui tourne, envie de vomir. C'est un truc de malade, je ne peux rien manger.
Oui, oui. Mais ça, c'est probablement lié aux deux facteurs. Peut-être une petite cholestase et aussi une vidange gastrique qui ne se fait pas, ce qui fait que vous restez avec ce repas. Et du coup, il faut savoir que 33% de ce qu'on appelle les gastroparésies, c'est-à-dire les estomacs un peu mous, on va dire, et qui se vidangent pas, sont idiopathiques. On ne sait pas d'où ça vient. Mais en tout cas, ça peut même parfois poser des problèmes pour les diabétiques qui prennent des médicaments. Parce que le médicament reste dans l'estomac, il n'est pas absorbé, et donc on peut avoir soit des hypos, soit des hyper. Des hypos parce que le bol alimentaire reste dans l'estomac pendant 2-3 heures, et alors que les médicaments qui sont censés faire baisser la glycémie, vous voyez, on pense pas assez à ça, et je pense que l'estomac est un acteur énorme, et puis, bien entendu, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais il y a le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire des gens qui souffrent énormément de reflux, la nuit, le jour, qui ont des brûlures d'estomac, et ça c'est, voilà, mais bon, c'est un autre sujet.
Oui. Voilà Nadia, est-ce que vous avez besoin d'autre chose?
En fait, oui, c'est ce que je disais au docteur, j'ai une gastrite chronique, est-ce que ça vient pas de ça?
Ah ben voilà, vous venez d'illustrer. Merci pour votre intervention parce que vous venez d'illustrer mon propos. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui tourne autour de votre foie, votre vésicule et votre estomac. Et je pense qu'il serait bien de faire, par exemple, un test de mobilité de votre estomac. C'est des tests qu'on peut faire par des radios et vous avez probablement fait des fibros et des endoscopies. Je pense que c'est important que vous regardiez la dynamique, la cinétique de votre tube digestif qui commence d'abord par l'estomac.
Bien, voilà Nadia ce que le docteur Alouche pouvait vous dire. Pourquoi est-ce qu'il faut détoxifier un organe dont le rôle c'est de détoxifier?
Ah oui, ça c'est une très bonne question.
Il dit qu'il faut détoxifier le foie, mais finalement c'est son rôle.
Quand on a une station d'épuration,
le foie.
Quand on a sorti le livre avec l'éditeur, ça a été une grosse question parce que hépato-détox, en fait, bon, l'hépato, comme vous dites très bien, enfin, attendez, le foie, il est là pour justement nous débarrasser.
C'est son job, voilà. En fait.
Le problème, c'est quand il a trop de job, il a trop de travail. Et aujourd'hui, on le fait bosser beaucoup trop, notre foie. On lui avale des choses qu'il n'avait pas l'habitude d'avaler depuis des millénaires. Les gens consommaient pas autour d'alcool, les gens avaient pas de médicaments, les gens n'avaient pas de toxiques, les gens n'avaient pas de tabac, les gens n'avaient pas de pollution, les gens n'avaient pas de sucre, parce que le sucre c'était une denrée très très rare avant le 18e siècle, hein, on en parle très très peu dans les textes. Hein, et au fond, le foie se retrouve envahi et assiégé par des tas de produits qui lui demandent beaucoup de travail. Hein, le fructose, ça lui demande beaucoup de boulot. Donc, je pense qu'il faut penser à lui, il faut être gentil avec lui. Si on veut vivre longtemps et en très bonne santé, le foie, c'est un des éléments vitaux de l'anti-âge.
Bien. On mettra la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube. Donc, vous mettrez en commentaire toutes vos questions sur la NASH. On reviendra sur la NASH. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, docteur Alouche, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicament pour soigner la NASH.
Non, il y a des médicaments qui sont aujourd'hui en cours d'enregistrement par des laboratoires. Vous pensez bien, un marché comme ça, c'est un marché colossal. Il faut savoir que c'est un Français sur 5 et un Américain sur 3. Donc, c'est absolument colossal. Donc, il va y avoir des médicaments. Il y a aussi des médicaments aujourd'hui qui pourraient être utilisés, qui existent déjà, qu'on pourrait utiliser dans ce cadre, mais qui n'ont pas l'autorisation d'être utilisés dans cette indication, parce que vous savez qu'aujourd'hui, chaque médicament a une autorisation précise d'utilisation, puisque c'est la Haute Autorité de Santé qui le définit. Mais j'ai bon espoir, il va y avoir des produits. Mais de toute façon, quel que soit le produit, quelle que soit sa qualité, son efficacité, son prix, rien ne sera au-dessus de l'exercice physique et la perte de poids. Rien. Voilà.
La méthode hépato-détox, tiens, montre-le à la caméra, docteur Réginald Alouche, c'est le titre de votre livre, voilà. Mincir durablement et sans danger grâce au foie, aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous, docteur Alouche.
Merci de m'avoir invité.
Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube. Et vous passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.